France Info.
Bonsoir Sarkozy, Balkany, Platini et l'hommage de Macron à Pompidou, président d'une France heureuse et de modernité. C'est dans les informés avec vous, Audrey Goutard, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. Avec Roselyne Fèvre, bienvenue, chef du service politique de France 24. Avec vous, Thomas Clé, bonsoir Thomas.
Bonsoir Jean-François.
Professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Je précise que vous avez été l'avocat également de Michel Platini.
Et pas dans ce dossier.
Pas dans ce dossier, je précise aussi. Et Jean-Sébastien Ferjou, le cofondateur et directeur d'Atlantico, nous rejoint dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Un peu de bourre-pif, ça fait du bien, j'ai le maxillaire qui se détend. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy, il plaisantait hein, pendant la campagne de 2012. Eh bien du bourre-pif, l'ancien président va en avoir dans l'affaire dite des écoutes pour laquelle il va être jugé pour corruption, trafic d'influence. Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais et trésorier des Républicains, rappelle, selon lui, que Nicolas Sarkozy a toujours été blanchi dans les affaires.
Un ancien président de la République, c'est un citoyen comme les autres, donc il doit être traité ni moins bien, ni mieux qu'un autre. Donc le fait d'être renvoyé au correctionnel, ça ne signifie pas qu'il sera condamné. Donc c'est pas la première fois qu'on évoque des affaires autour de Nicolas Sarkozy. À chaque fois, ça s'est terminé par un non-lieu, où à la fin, il a été blanchi. Donc moi, je fais confiance à la justice de mon pays, qu'elle fasse son travail. Et j'attends sereinement sa décision.
Audrey Goutard, c'est du sérieux cette fois
hein. Alors... Oui, c'est du sérieux. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est la première fois qu'un président, un ancien président de la République va être jugé pour corruption. Alors c'est vrai qu'il a eu des non-lieux, puisque l'interlocuteur en parlait. Il y a eu l'affaire Bettencourt, non-lieu, les pénalités de compte de campagne, non-lieu, c'est une histoire de voyage en jet, non-lieu aussi. Mais il y a d'autres affaires qui arrivent encore. Donc c'est vrai que c'est un rendez-vous judiciaire important pour Nicolas Sarkozy. Et ça fait près de 10 ans, si vous voulez, qu'il vit au rythme de ces fameux rendez-vous judiciaires. Et celui-là, ben voilà, se termine devant les tribunaux.
Thomas Cléant, peut-être on rappelle un peu le contexte. Hein, les ultimes recours eh bien, sont épuisés.
Alors, on peut évidemment invoquer les quelques non-lieux qu'il a obtenus, mais les procédures ont duré tellement longtemps, grâce d'ailleurs à l'ingéniosité de ses avocats, dont certains, dont l'un, Thierry Herzog, est renvoyé à ses côtés aujourd'hui pour corruption. Mais en réalité, il faut aussi se souvenir qu'une partie des charges qui ont été abandonnées contre Nicolas Sarkozy l'ont été parce qu'il a bénéficié de ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. Donc c'est pas tout à fait un non-lieu. C'est simplement ça s'appelle un privilège de juridiction, pour être précis. Pardon de faire le juriste.
Mais c'est important.
Donc là, aujourd'hui, il est renvoyé pour corruption et trafic d'influence, ce sont des chefs lourds. Il a déjà été renvoyé dans l'affaire Big Malion devant le tribunal correctionnel, ça c'est pour la campagne de 2017, pour financement illégal de campagne électorale. Et puis il est mis en examen dans l'affaire Libyenne, ça c'est la campagne de 2007. Et puis il est témoin assisté dans l'affaire Karachi, enfin c'est un petit code pénal quand même de Nicolas Sarkozy. Voilà, et d'ailleurs Daniel Fasquelle, qui est professeur de droit, qui est un de mes collègues, le sait parfaitement.
Oui. Roselyne Fèvre, Thomas Clé a dressé le catalogue des affaires qui désormais assaillent Nicolas Sarkozy. Ça va être compliqué pour lui.
Oui, ça va être très compliqué, mais peut-être que je dirais que ce dossier-là, c'est peut-être celui qui est le plus sérieux juridiquement.
Celui que le public, grand public, connaît par le nom de Paul Bismuth.
Oui. Voilà. Et puis surtout cette tentative de corruption. Et puis les juges ont quelque chose, parce que dans l'affaire libyenne, c'est vrai que c'est un peu c'est Claude Guéant, ça tourne autour de Nicolas Sarkozy, mais pour l'instant il y a aucune preuve. Là, c'est un peu plus sérieux juridiquement. Alors Nicolas Sarkozy va sans doute risquer, mais là je parle peut-être sous votre contrôle, sera sûrement condamné, mais est-ce que ce sera une
pas
condamnation
encore.
Voilà, si
il est présumé innocent, il est de plus en plus présumé innocent.
Oui. Tout à fait, mais s'il y a une condamnation, est-ce qu'elle sera légère, est-ce qu'elle sera symbolique, est-ce qu'elle sera avec sursis, ou alors peut-être il sera blanchi, bien évidemment, c'est possible aussi.
Dans cette affaire, il est quand même renvoyé avec son avocat, Thierry Herzog, et avec un ancien très haut magistrat. Donc on a l'ancien président de la République, un avocat et un magistrat.
Vous parlez de Gilbert Azibert.
à Gibert, qui sont, bon voilà, c'est des magistrats qui ont formé des générations de magistrats, comme d'ailleurs dans l'affaire Tapie. Un des magistrats renvoyés, Pierre Estoupe, est des magistrats qui sont au sommet de la hiérarchie judiciaire. Et je rappelle que dans l'affaire Tapie, Nicolas Sarkozy n'a pas été renvoyé parce que précisément, il était président de la République. Donc tout ça fait quand même on en parlera tout à l'heure, j'imagine, de l'affaire Balkany, qui n'est pas non plus très éloignée. Tout ça donne une impression quand même de fin de règne déplaisante.
Fin de règne déplaisante, vous dites ce soir, Thomas Clé. Et Audrey Goutard ?
Oui, je voulais rappeler un peu le contexte. Je vous rappelle quand même que les magistrats du parquet national financier avaient souligné quand même que dans cette affaire, l'affaire Paul Bismuth, alors on peut peut-être rappeler deux mots.
Faites-le, c'est important.
En fait, il s'agissait de l'avocat de Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy avait communiqué avec un téléphone qui était entre guillemets clandestin, avec des pseudos,
Paul Bismuth,
à l'insu des policiers parce qu'ils avaient peur d'être écoutés, et ils échangeaient dans les conversations.
Nous sommes dans un autre dossier, c'est l'affaire Bettencourt, dans ces histoires. Il y a un autre dossier qui se mêle.
Ah oui, si on remonte...
C'est à l'occasion de l'affaire Karachi.
Mais oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est la méthode utilisée, c'est-à-dire utiliser un téléphone parallèle, si vous voulez, avec des pseudos pour pouvoir effectivement échanger de façon clandestine à l'insu des policiers. Et les magistrats du parquet financier, dans leur conclusion, avaient dit qu'ils avaient été jusqu'à comparer les méthodes utilisées par l'ex-président et son avocat à celle de, entre guillemets, délinquants chevronnés, notamment avec le recours pour communiquer confidentiellement de une fausse identité comme un délinquant, un grand délinquant. Donc voilà, ça, le parquet financier avait été très loin dans ses conclusions.
Encore un mot là-dessus, Roselyne Fèvre, est-ce à dire que ces procès, puisqu'il est question de deux procès désormais, mettent un terme, du moins momentanément, à toute idée de retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique ?
Pour l'instant, oui, clairement, ça va être très compliqué pour lui. Et puis d'abord, est-ce qu'il en avait envie ? Alors lui, il disait que non, bien évidemment. Ses lieutenants allaient sur tous les plateaux pour dire que la droite le réclamait à corps et à cri. Je suis pas sûr qu'un retour, en tout cas, soit possible avec cette série de procès qu'il attend.
Allez, 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Parole à la défense aujourd'hui au procès Balkany. Juste avant qu'il ne se termine ce soir, les avocats du maire de Levallois-Perret ont tenté de convaincre les juges que le dossier est vide, que l'accusation est trop sévère pour une affaire de fraude fiscale. Le parquet national financier requiert 7 ans de prison ferme contre Patrick Balkany, 10 ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens. Le jugement est mis en délibéré au 18 octobre. Le parquet de Marseille demande le renvoi devant la justice du sénateur Jean-Noël Guérini. L'ancien président PS du département des Bouches-du-Rhône est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Il aurait aidé son frère Alexandre à acquérir un terrain à La Ciotat pour y exploiter une décharge. Ils ne sont plus que 4 en lice pour remplacer Theresa May, 4 candidats à la présidence du Parti conservateur et au poste de Premier ministre en Grande-Bretagne. C'est une élection au long cours avec plusieurs tours. Et après le troisième, ce soir, Boris Johnson, ancien maire de Londres, accroît un peu plus son avance. Paris et Berlin disent œuvrer de concert à une désescalade dans le dossier iranien. Washington et Téhéran sont de plus en plus véhéments dans leurs paroles comme dans leurs actes. Les États-Unis annoncent le déploiement de 1000 soldats supplémentaires dans le golfe Persique. Ils renouvellent aussi leurs accusations sur la pose de mines ventouses sur des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Et puis Caroline Vitalis décroche le titre au championnat d'Europe d'escrime. Elle succède à Laura Flessel, dernière championne d'Europe à l'épée pour la France. La fin d'une disette qui aura duré 12 ans.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est lui qui avait fait retentir la sonnerie des tontons flingueurs lors de son procès, ami et compagnon de route de l'ancien président Sarkozy. Patrick Balkany risque-t-il la prison? Moment très attendu à la fin du procès aujourd'hui. L'avocat du maire de Levallois-Perret a prononcé sa plaidoirie. Écoutez les mots à la sortie de maître Éric Dupond-Moretti.
Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Eux qui ont requis au nom de la morale publique d'une justice absolument exemplaire, équitable, ben là, on n'est pas dans l'équité du tout. Il n'est pas traité comme un justiciable ordinaire. Et puis, il fallait aussi qu'on parle du fantasme, bien sûr. Fantasme de l'homme politique, son amitié avec M. Nicolas Sarkozy. Tout ça, ce sont des non-dits, mais ce sont des non-dits qui pèsent très très lourd ici.
André Goutard, la question qui est posée ce soir, c'est Patrick Balkany, peut-il éviter la prison ?
Alors, vous avez vu que dans ces réquisitions, le parquet demande même à ce qu'il soit mis en prison dès décision, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas repartir chez lui et ensuite se diriger vers une prison. Donc, c'est dès la fin de l'audience être placé en détention. C'est une demande qui n'est pas saugrenue, puisque, effectivement...
C'est la loi pour certaines
personnes qui sont suspectées de pouvoir prendre la tangente, comme on dit, puisqu'on parle un peu dans façon tonton flingueur dans ce procès. Donc voilà, il y a de forts risques qu'il se trouve en détention à l'issue du procès.
Thomas Clay, les arguments de maître Éric Dupond-Moretti, il a notamment dit, alors, à l'endroit des procureurs, vous êtes les chefs d'orchestre de la morale publique.
Oui, Maître Dupond-Moretti est un avocat qui a beaucoup de talent, mais qui est un talent exclusivement dirigé sur son autopromotion, et souvent au détriment de ses propres clients. Alors je sais qu'on le surnomme ou qu'il se surnomme acquittateur, mais si on prend les dernières affaires les plus récentes, que ce soit Jérôme Cahuzac, que ce soit Abdelkader Merah, qui a quand même pris 30 ans de prison, ou que ce soit dans l'affaire Pastor, où son client a pris la réclusion criminelle à perpétuité, le surnom le plus juste serait probablement plutôt condamnator. Mais c'est la vérité. Simplement, il arrive à désorienter un certain nombre de journalistes qui travaillent pas assez leur dossier. Donc, je serais Patrick Balkany. Oui, je serais un peu inquiet quand on voit le pédigré d'Éric Dupond-Moretti ces derniers mois. Il ferait mieux de mettre son talent au service de ses clients et non pas de se servir
de ses
clients.
Vous pensez qu'il a nuit à son client, vous?
Je pense. Ça fait un certain temps qu'il nuit à ses clients, qu'il rebondit avec ses clients. Et donc, pour répondre plus exactement à votre question, oui, effectivement, là, c'est une défense, comme d'habitude, c'est une défense médiatique. Les juges détestent ça. Ici, on est sur l'application du code pénal. Il y a un article extrêmement simple, qui est l'article 324-1 du code pénal, qui nous dit qu'en cas de fraude fiscale, et là, on est sur une fraude fiscale, si elle est avérée, une fraude fiscale aggravée. On parle de 30 ans de fraude fiscale, d'une cascade de sociétés écrans. Alors, moi, je veux bien qu'on dise que
pour
c'est
vous, c'est
un
dossier imbattable.
C'est un dossier qui
est incontournable, imbattable.
Mais en tout cas, je veux dire, il faut pas être sur le terrain de la morale. Il faut être sur le terrain du droit. La morale, ça marche pas avec les magistrats. On est sur le terrain du droit, et c'est en droit qu'ils rendront leurs décisions. Et à mon avis, je serais Patrick Balkany, je serais inquiet.
Sauf que sur le terrain du droit, il y a peu de chances que effectivement l'accusé s'en sorte bien, puisque sur le terrain du droit, il y a bien 13 millions qui ont été détournés. L'enquête a fait une démonstration magistrale des détournements qui datent d'il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, effectivement, les époux Balkany se jouent de la justice.
Roselyne Fèvre, Patrick Balkany a également fait le show. C'était peut-être pas la bonne méthode non plus.
Oui, d'abord, il a toujours nié la corruption. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu là aussi un problème? Est-ce qu'il n'aurait pas dû... avoué, dans le fond, il a joué effectivement les fanfarons, le type un peu sans filtre. Et d'ailleurs, c'était amusant d'écouter Maître Moretti, puisque qui a joué d'ailleurs sur le registre de l'indignation, et disons un peu que son client incarnait un peu la détestation.
Mais est-ce que ça n'était pas un peu mission impossible finalement
de défendre Balkany? Oui. Il le dit lui-même, il l'a dit pendant au président du tribunal.
Pas les époux Balkany. Patrick Balkany a une défense bien différente de Pierre-Olivier Sûr. Et ça, il faut voir la différence, justement.
Il a dit au président du...
qui a été reconnu par le parquet. Le parquet lui-même a salué la défense de Madame Balkany.
Vous dissociez les deux types de défense.
Deux avocats différents, deux méthodes différentes.
Non, il a dit au président du tribunal, vous étiez peut-être trop jeune à l'époque, mais il y a 10 ans, la fraude était un sport national. Donc c'est quelque part une forme d'aveu. Alors voilà, ce personnage a énervé les juges, bien évidemment, avec son attitude. Je crois même qu'il a énervé son propre avocat quand il l'a repris sur son âge.
Mais vous ne pensez pas qu'un profil bas n'aurait rien changé à ce procès, au fond?
Il a fait profil bas aujourd'hui.
Audrey Goutard.
Aujourd'hui, Patrick Balkany est revenu un peu en arrière et effectivement a reconnu qu'il aurait dû faire autrement.
Oui, mais enfin, pendant
les 30 ans de fraude.
Non mais c'est intéressant.
Ou les deux.
Parce que entre eux, effectivement, il a on l'a vu fanfaronner, s'énerver contre son avocat, jouer du clash justement pour pouvoir exister, apparaître et tenter de faire oublier la réalité du dossier, mais néanmoins là en cette fin de procès, on a senti les journalistes qui étaient sur place le disent, on sentit qu'il y avait un début quand même de regret et tout à coup de comme s'il réalisait que finalement tout ce qu'on dit là n'est pas si faux et qu'il aurait mieux valu faire un peu plus profil
bas. C'est un homme de la vieille époque. Il est de droite, il fume des cigares, il a des billets plein les poches, un peu comme les tontons flingueurs. Donc c'est vrai, c'est aussi il y a une volonté aussi de faire un exemple d'un monde dépassé, d'un monde où aujourd'hui c'est la transparence et l'époque de Balkany, c'est
une époque où... Je suis pas sûr. Alors les billets, je suis d'accord, qui sortent du peignoir à ses initiales dans sa ville à Marrakech. Mais il a d'abord déjà été condamné, Patrick Balkany. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit nécessairement la volonté des magistrats de faire un exemple. Les magistrats ne raisonnent pas comme ça. Encore une fois, ils raisonnent en droit. Ils ont un dossier qui a l'air accablant. Il est présumé innocent. Il faut quand même le rappeler. Mais le dossier a l'air accablant, et on va voir ce qui se passe. Alors, en revanche, ce qui va être intéressant, c'est la peine accessoire d'inéligibilité.
Alors justement, parce que le jugement est mis, ils ont délibéré au 18 octobre au deuxième Goutard.
Le deuxième.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il peut, lui, se représenter au municipal s'il fait appel?
Alors, en réalité...
On laisse pas le juriste.
C'est la question sur laquelle ont planché les juristes aujourd'hui, ce qui prouve qu'avec Patrick Balkany, on a aussi un cas inédit. Supposons qu'il y ait, comme l'a rappelé Audrey Goutard, un mandat de dépôt qui soit ordonné à l'audience, c'est-à-dire qu'il repart après l'audience en prison. Est-ce que depuis sa prison, il pourra faire campagne pour l'élection municipale de mars 2020 à Levallois? En réalité, ça dépendra de ce qu'on trouvera dans la décision. C'est-à-dire que la peine d'inéligibilité, qui va être très vraisemblablement donnée en plus de la peine de prison, s'il y a peine de prison évidemment, elle sera ou non suspensive selon ce que décideront les juges. Si elle est suspensive, à ce moment-là, il pourra faire campagne depuis sa prison. S'il n'est pas suspensive, on peut penser que ce sera madame qui fera campagne.
Ah, c'est une vraie information que vous nous donnez là ce soir. Oui. Thomas Clay, Audrey Goutard, qu'est-ce que
vous
voulez ajouter?
Oui, ce qui est très intéressant, ce week-end, nous sommes allés sur un marché justement à Levallois-Perret, et alors c'est toujours la même stupéfaction quand même pour les journalistes, c'est qu'en interrogeant la majorité des gens qui nous ont répondu sur le marché, soutenaient à fond leur maire. C'est-à-dire que pour l'électeur, il n'est pas...
Le fait qu'il soit dans sa ville.
Oui,
c'est la ville la plus endettée de France.
Vous voulez dire que l'opinion levalloisienne soutient toujours les époux Balkany?
Oui, parce qu'ils sont forts en couleur, parce qu'ils font marrer les gens, parce que au procès, comme je vous disais, ils ont fait des clashs, ils s'est disputé avec son avocat. Enfin, les gens voient ça. Et à l'heure actuelle, effectivement, ils considèrent que Patrick Balkany est un bon maire. Un jour, il faudra faire les comptes de la ville, et là, je pense qu'ils tomberont de haut, mais pour le moment, sur le marché de Levallois-Perret, la majorité des gens étaient pour le soutenir.
En tous les cas, Thomas Clay le disait à l'instant, situation inédite, un cas inédit, et nous verrons bien, Thomas, le 18 octobre, ce qui se produira quand, évidemment, il s'agira d'appliquer la peine.
Hein. S'il y a une peine, il y aura vraisemblablement appel. Est-ce que l'appel va suspendre toute la peine ou une partie de la peine, on saura ça en fonction de ce qui est décidé.
Et ce n'est pas encore écrit. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Il y aura un procès Sarkozy dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République est renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Décision de la Cour de cassation qui rejette les derniers recours des avocats. Après des écoutes téléphoniques, notamment des échanges avec son avocat, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté de corrompre un magistrat. Il aurait promis un poste prestigieux en échange d'informations sur l'enquête Bettencourt. Michel Platini a découvert au cours de cette audition des éléments qu'il ignorait complètement, assure son avocat sur France Info. L'ancien numéro 10 des Bleus, ex-patron du football européen, est sorti de garde à vue. Les enquêteurs s'intéressent à son rôle éventuel dans l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, plus particulièrement à un déjeuner à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy et le prince héritier du Qatar. C'était en 2010. La Russie dénonce des accusations gratuites qui visent à la discréditer. 3 Russes et 1 Ukrainien seront jugés aux Pays-Bas pour homicide. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines, un tir de missile sur l'avion en juillet 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les enquêteurs internationaux sur cette affaire. Le nombre de réfugiés dans le monde a augmenté de plus de 2 millions en un an. 70 millions de personnes vivent loin de chez elles à cause de la guerre ou de la misère, selon un dernier rapport des Nations Unies. Il n'y en a jamais eu autant, c'est un chiffre record. Et puis l'OM à la diète. Le club de football marseillais va devoir suivre une cure d'austérité pour respecter les règles du fair play financier. Il vient de signer un accord avec l'UEFA. Dépenses réduites pour 4 saisons. Le club ne pourra notamment inscrire que 23 joueurs dans son groupe professionnel au lieu de 25.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jules de Kiss évoquait à l'instant cette enquête du PNF, le Parquet National Financier, sur l'attribution controversée du Mondial de football 2022 au Qatar. Il y avait à ce déjeuner dont il était question deux autres protagonistes qui eux aussi ont été entendus, deux anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, sa conseillère sport Sophie Dion et l'ex-secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant, qui eux aussi sont ressortis libres de ces interrogatoires. Je vous propose d'entendre de nouveau les mots de l'ancien président de l'UEFA et vice-président de la FIFA, Michel Platini, qui s'est défendu de toute malversation.
Alors que je devais arriver comme auditeur libre, je suis arrivé, on me met tout de suite en garde à vue. Ça fait mal, quoi. Hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal. J'ai toujours été serein, parce que je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire. C'est une affaire qui est vieille, vous la connaissez, on l'a expliqué. Je me suis toujours exprimé en pleine transparence dans tous les journaux. Mais voilà, ben ça continue, ils font des enquêtes, ils cherchent.
Thomas Clay, vous avez été jadis, vous l'aviez rappelé, l'avocat de Michel Platini. Cet homme est sincère?
Oui, c'est un homme sincère.
On le sent blessé. Hein.
Il est blessé parce que c'est quelqu'un qui se retrouve comme ça, propulsé dans des affaires judiciaires. Et il faut bien comprendre que ce qui s'est passé hier, c'est pas à l'encontre de Michel Platini. C'est pas Michel Platini qu'on cherche. Michel Platini, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ce déjeuner du 23 oui. novembre 2010 à l'Élysée, 10 jours avant l'attribution de la Coupe du Monde qui vient, la prochaine Coupe du Monde où la France défendra son titre.
Alors qu'il avait dit qu'il voterait pour les États-Unis.
Oui, c'est ça. Alors, voilà, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce déjeuner. Puisqu'à ce déjeuner, effectivement, il a rencontré l'émir du Qatar.
Qu'est-ce que le PNF cherche alors, Thomas Clay ?
Ben, il cherche, c'est pas Michel Platini qui cherche. C'est ce qui s'est passé à l'Élysée, à l'intérieur de l'Élysée. Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis ?
Michel Platini a changé d'avis.
Mais il a changé d'avis, il a voté comme il l'entend, il vote comme il l'entend. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même si... C'est pour ça que je ne comprends pas très bien la procédure en fait qui a été enclenchée hier, et peut-être qu'on en saura davantage. Mais même le président Sarkozy, dont vous avez vu au début de cette émission, qu'on ne pouvait pas m'accuser d'avoir un peu de la tendresse vrai. À son égard... Même à supposer que le président de la République décide qu'il faut soutenir le Qatar. Après tout, c'est dans ses prérogatives. Ça peut se tenir à des considérations géopolitiques.
Là, nous sommes dans une décision qui serait normale.
La question, c'est celle de la contrepartie. Oui. Est-ce qu'il y a une contrepartie à ce type de vote? Alors, voilà, et c'est ça que les enquêteurs cherchent à savoir. Et je rappelle quand même, parce que je sens que mes deux interlocutrices sont prêtes à bondir sur Michel Platini, ce qui n'est pas facile.
Non, pas du tout.
Rappelle quand même que tout le monde est sorti libre hier. Il y a eu une mise en examen.
On a bien compris les arguments de Thomas Clay. Audrey Outard, Michel Platini a expliqué aux enquêteurs qu'il savait qu'il allait voter pour le Qatar avant le déjeuner, qu'il allait voir le président pour le lui dire.
Donc, d'abord, première chose, on est d'accord que chacun est présumé innocent et que pour le moment, ce sont des auditions et qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner que Michel Platini, pour le moment, n'est accusé de rien.
Même
il est sorti libre.
En
revanche, il y a effectivement une chose bien étrange, c'est-à-dire que un Michel Platini qui, avant ce déjeuner, était prêt à voter pour les États-Unis et qui, après ce déjeuner, alors je le rappelle, ce déjeuner, il y avait donc, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy, deux de ses proches, mais aussi des représentants du Qatar.
Ah ben il y avait le prince héritier, le premier ministre
notamment,
du Qatar,
et le premier ministre, donc pas n'importe qui. Et à ce déjeuner, tout le monde a beaucoup discuté, visiblement, et qu'à la sortie de ce déjeuner, Michel Platini avait un tout autre avis. Ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect judiciaire, c'est que ça démontre effectivement cette perméabilité entre le monde sportif et le monde politique, ces jeux en fait de stratégie où chacun joue ses pions. Et on comprend bien pourquoi. C'est vrai que chacun veut avoir ce tournoi dans son pays. Donc après, est-ce qu'il y a effectivement, en échange de tout ça, des cadeaux? Est-ce qu'il y a des avantages, etc. C'est le boulot de la justice. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il était bon d'avoir cette Coupe du Monde au Qatar? Moi, je ne suis pas une grande sportive, mais je me souviens qu'à l'époque, chacun s'étonnait quand même qu'on aille jouer dans un pays où il fait 50 degrés cette saison, où il a fallu fabriquer une infrastructure qui n'était pas du tout adaptée au football.
Roselyne Fèvre.
Je crois que c'est une question d'argent. Qui achète l'influence en réalité. Et ce qui est au cœur de l'affaire, c'est les relations qu'avait Nicolas Sarkozy avec le Qatar.
Exactement.
Alors ses ennemis disaient que c'était un agent du Qatar. Et rappelez-vous, sur les infirmières bulgares, lors de la libération, il avait remercié le Qatar quand même. Donc c'est le cœur du sujet. Alors bien sûr, il est, comme ça s'est passé lorsqu'il était président de la République, il bénéficie donc de l'immunité présidentielle, donc il sera jamais entendu sur cette affaire. Mais c'est ça le sujet, et c'est le sujet aussi du Qatar, d'un petit pays qui fait un soft power sur qui achète des clubs de foot, qui achète des palaces et des.
Il reste une. On a bien compris ce que le récit que vous en faites, Roselyne Febvre, une poignée de secondes, Thomas Clay, 2022, ça se passe au Qatar.
Ça se passe au Qatar en hiver.
C'est sûr.
C'est sûr, mais je crois que ce que vous venez de dire est exactement le problème, c'est-à-dire les liens entre, disons, la Sarkozy et le Qatar. Parce qu'effectivement, on a ce déjeuner du 23 novembre 2010, on a le PSG qui est vendu au Qatar quelques mois plus tard, on a le vendeur du PSG qui est Sébastien Bazin, l'intime de Michel Platini, actuel président d'accord, où siège désormais, pardon, pas Michel Platini, Nicolas Sarkozy, où siège désormais.
Alors, vous dites que ce n'est pas une affaire Platini, mais il me semble que le fils de Platini a été.
20h et 28 minutes sur France Info. Désolé, nous marquons une pause pour la météo, pour le rappel de l'info. On se retrouve dans quelques minutes, c'est promis, pour la deuxième partie des Informés de France Info.
En tant qu'équipementier auto implanté en Europe de l'Ouest, il nous fallait quelqu'un pour garantir notre niveau d'exigence. C'est l'ingénieur qualité que vous voyez là. C'est une VIE. N'est-ce pas, Cécile ?
Exact. Grâce au VIE, j'ai pu apporter mon savoir-faire là où on en avait besoin. Attention, ce montage doit être très serré. Pass auf, die Montage muss ganz fest sein.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France accompagne votre développement à l'étranger, du recrutement à la gestion RH. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Un nouvel axe d'averse se met en place entre les Pyrénées et le Massif central et cet axe va progressivement se décaler cette nuit vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté ainsi que l'Alsace pour s'évacuer demain matin. Une dégradation pluvieuse et orageuse va aussi aborder les Hauts-de-France, le bassin parisien et les Ardennes en cours de nuit, puis concernera le quart nord-est demain après-midi. Dans le sud-ouest, après une matinée calme mais plutôt grise, les averses orageuses vont reprendre l'après-midi et pourront même donner de la grêle vers l'est des Pyrénées. Sur le Massif central et les Alpes, il faut aussi s'attendre à des averses et des orages demain après-midi. En revanche, les conditions vont s'améliorer sur le nord-ouest avec le retour de belles éclaircies dès demain matin entre le Boulonnais, la Vendée et la Bretagne. L'après-midi, l'amélioration va s'étendre à l'ensemble des Hauts-de-France, au bassin parisien, à la Touraine et aux Charentes. Autour de la Méditerranée, le soleil sera assez généreux demain, mais le temps sera plus mitigé et nuageux sur le Languedoc-Roussillon avec même quelques débordements d'averses possibles. Côté température, les maximales seront en baisse demain. Il fera 18 à 25 degrés en général, mais l'ambiance sera plus chaude dans le quart sud-est avec 24 à 32 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec Emmanuel Grabé.
Nicolas Sarkozy, bientôt devant le tribunal correctionnel. La justice a rejeté aujourd'hui les ultimes recours intentés par l'ancien président pour éviter le procès. Il est poursuivi pour corruption. C'est une première sous la Ve République pour un ancien président. Poursuivi dans l'affaire des écoutes, il aurait promis d'aider un haut magistrat à obtenir un poste à Monaco en échange d'informations couvertes par le secret de l'instruction sur une autre affaire l'impliquant, l'affaire Bettencourt. À Marseille, c'est le sénateur et ancien président du département des Bouches-du-Rhône, l'ancien socialiste Jean-Noël Guérini qui voit la perspective d'un procès se rapprocher. Le parquet de Marseille requiert aujourd'hui son renvoi en correctionnel dans une affaire de prise illégale d'intérêt. En l'occurrence, l'achat et la réhabilitation d'un terrain par le département au profit de son frère. À quelques mois du lancement de l'expérimentation en France du cannabis thérapeutique, le comité scientifique chargé de réfléchir à l'organisation de cette expérimentation vient de rendre ses préconisations. Un mode d'emploi très précis, Solène Lehen.
Le comité scientifique propose d'abord que le cannabis thérapeutique ne soit pas fumé, mais inhalé après vaporisation ou encore avalé oralement sous forme d'huile ou même de capsule d'huile. Il a retenu 5 dosages différents, 5 équilibres entre CBD et THC, les différents composants du cannabis. L'expérimentation commencerait en début d'année prochaine pour une durée d'un an et demi. Le comité scientifique ne dit pas combien de patients pourraient en bénéficier, mais propose un profil des malades volontaires de tous âges qui souffrent de douleurs qui ne peuvent pas être soulagées par des médicaments classiques, des patients atteints de cancer, de sclérose en plaques, des épileptiques sévères ou encore des patients en situation palliative. Ce seraient des médecins spécialistes formés qui prescriraient le cannabis thérapeutique, du cannabis importé et délivré par des établissements de santé uniquement. Toutes ces propositions doivent maintenant être validées par l'Agence du médicament, l'ANSM qui devrait donner son feu vert à l'expérimentation la semaine prochaine, mercredi ou jeudi.
précision de Solène Lehen pour France Info. L'Arabie Saoudite juge sans fondement le rapport d'une experte des Nations Unies sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'était en octobre dernier dans l'enceinte du consulat de son pays à Istanbul. Dans ce rapport, elle réclame une enquête internationale sur la responsabilité du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dans cette disparition. Pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il y a encore du temps pour faire baisser la pression autour de l'accord nucléaire iranien, mais peu de temps. L'Iran a fait savoir que si le 8 juillet, les pays européens signataires de cet accord ne respectaient pas leurs engagements, ils reprendraient pleinement ses activités d'enrichissement d'uranium. Les États-Unis ont dénoncé dans la foulée un chantage nucléaire et annoncé le déploiement de 1000 soldats supplémentaires dans le Golfe. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec Jean-François Aquili.
20h21, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. Il nous a rejoint avec Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Cofondateur et directeur d'Atlantico et Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne Université Paris 1. Il y a des jours comme cela où l'actualité se télescope dans tous les sens. Le président Emmanuel Macron a prononcé tout à l'heure à l'Élysée un hommage appuyé à Georges Pompidou à l'occasion du 50e anniversaire de l'élection de son lointain prédécesseur, le chef de l'État qui s'est exprimé à la veille du colloque qui se tient à Beaubourg durant lequel doivent s'exprimer demain Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy vendredi, extrait du discours du chef de l'État.
Je crois qu'il y a dans ces années et dans les choix qui sont alors faits, une manière très française de bâtir notre modernité, c'est-à-dire de ne pas en avoir peur, de la saisir et au fond de l'inventer et de prendre la part de risque qui va avec la modernité. Et à mes yeux, les années Pompidou, au fond, comme Premier ministre puis comme Président, ce sont les années de cette modernité française, c'est-à-dire d'une capacité à prendre ses risques et à construire une histoire de progrès pleinement cohérente avec notre identité, et une histoire de progrès qui fut tout à la fois le progrès le plus extrême, technologique, culturel, artistique, et le progrès pour chacun de nos concitoyens et pour les classes moyennes françaises.
Jean-Sébastien Ferjou, la France heureuse, la modernité, est-ce que Georges Pompidou est un modèle pour Emmanuel Macron ?
Ben en tout cas, il semble s'en inspirer, donc c'est lui qui se le choisit comme modèle, effectivement. Après, c'est assez amusant de voir qu'on s'irrigue plus dans la nostalgie, finalement, que dans la projection réelle vers l'avenir, parce qu'on peut toujours dire que Georges Pompidou était dans la modernité, mais enfin, la modernité du temps de Georges Pompidou, que ce soit sur les défis de l'industrialisation de la France, que ce soit sur, je sais pas, la construction de voies sur berge à Paris, il me semble que ça n'est plus exactement d'actualité aujourd'hui. Donc oui, je pense que Georges Pompidou avait été un bon Premier ministre, peut-être même meilleur encore que Président de la République du Général de Gaulle, un bon ministre des Finances. Maintenant, est-ce que ça a vraiment du sens de vouloir à tout prix se trouver des références comme ça ? Je pense que ça masque pas mal l'espèce de vacuité idéologique du macronisme, mais de manière générale de la vie politique. Non, mais de la vie politique à l'heure actuelle, puisqu'on va chercher ces espèces de grandes références qui n'ont pas beaucoup plus de sens que ça.
Roselyne Fèvre.
Moi, je trouve qu'il s'inspire de beaucoup de présidents de la République, excepté deux, Jacques Chirac et François Hollande. Mais il y a du De Gaulle, dans le sens où De Gaulle avait, après 58, dépolitisé complètement le débat. Ça n'a pas duré, ça a duré 2 ans. Hein, plus les partis avaient explosé, ça n'a pas duré. François Mitterrand, donc, c'était un peu la pyramide du Louvre, bien évidemment, le côté jupitérien. Mitterrand, c'était les forces de l'esprit. Macron, c'est la transcendance. Et puis Valéry Giscard d'Estaing, je ne les mets pas dans l'ordre, hein, réformateur, moderne. Et puis Sarkozy, dans le côté transgressif, dans le côté énergie, et Nicolas Sarkozy a voulu réformer, aurait voulu plus réformer, mais il se heurtait bien évidemment.
Vous dites que dans l'ADN du macronisme, il manque deux présidents.
Il manque deux présidents, pour moi, c'est Jacques Chirac, pour il considère que c'est l'impuissance, et François Hollande, il veut surtout pas s'en aspirer, puisqu'il a fait tout le contraire. Il veut faire tout le contraire, alors qu'il lui doit quand même la baisse du chômage avec le CICE.
Juste pour citer Gaspard Koenig, vous savez, penseur libéral, ce matin dans Les Échos, il disait de la même manière qu'on disait que avec François Mitterrand, ce serait Cuba sans le soleil, Emmanuel Macron, c'est Chirac sans la bière. Mais ce qui est je pense, un vrai sujet,
Hollande,
parce qu'il y a beaucoup,
Thomas Clay, beaucoup de
radical socialisme, finalement, et d'immobilisme à la Henri Coille chez Emmanuel Macron.
Alors, Thomas Clay, il y a peut-être plus de Giscard en Macron que de Pompidou, finalement.
C'est ce que j'allais dire. Bon, je passe, pour vous dire la vérité, je ne trouve pas ça très intéressant, en réalité. Le fait que le président de la République se réfère... Alors, c'est vrai qu'il est tout le temps dans sa propre itinérance mémorielle, d'ailleurs, pour reprendre, pour reprendre son expression. Il essaye, peut-être par sa jeunesse, de s'inscrire dans l'histoire, et comme c'est un homme qui a beaucoup de culture, il arrive à s'inscrire dans l'histoire de manière assez efficace. Pour autant, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça mérite d'être véritablement commenté? Personnellement, j'en suis pas certain. Je suis pas certain que la modernité de Georges Pompidou elle soit pas complètement dépassée par celui qui lui a succédé immédiatement. Oui. Valéry Giscard d'Estaing, qui a été infiniment plus moderne. Donc,
oui, c'est pas intéressant. Audrey Goutard, ce n'est pas non plus un hasard si, au fond, le président Emmanuel Macron se raccroche à ce 50e anniversaire. On est en plein préparatif des élections municipales. Ça n'a échappé à personne.
Non, absolument, ça n'a échappé à personne. Mais pardon, je voulais revenir un peu, parce que ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est qu'effectivement qu'il s'accroche à cette modernité de Pompidou, alors que c'est justement tout ce qu'on est en train d'essayer de détricoter. C'est cette modernité de cette époque des années 70, avec le tout voiture, les autoroutes en centre-ville, le tout chimique, l'oubli complet de la nature et de son environnement, et justement le minéral. Pompidou, pour moi, c'est le minéral. Et justement,
vous savez qu'Emmanuel Macron a rappelé Beaubourg, le périphérique, l'aménagement du territoire. On pense notamment à Paris.
Sinon, c'est un banquier d'affaires, aux inspirations littéraires.
C'est tout ce qu'on détricote aujourd'hui. C'est tout ce qu'on paye aujourd'hui et ce qu'on détricote aujourd'hui.
C'est la France de l'industrialisation.
Voilà, et on oubliait effectivement qu'à un moment donné, il y avait des humains qui devaient vivre. Pour autant, il y a des choses magnifiques. Le centre Pompidou est une vraie modernité. Faut pas jeter. Le bébé avec l'eau du bain. Mais le fait est, si vous voulez, c'est que c'est étonnant qu'un président de la République d'aujourd'hui se réfère à cette modernité-là.
Oui, mais regardez, il y avait au moment, je me souviens de la mort de Johnny Hallyday, il y avait cette nostalgie, on s'était tous étonnés de cette incroyable foule qu'il y avait sur les Champs-Élysées, place de la Madeleine. Et c'était effectivement, vous le disiez, Audrey, c'est vrai, c'était l'époque où on clopait partout, on conduisait sans ceinture de sécurité. C'était une espèce, c'était un monde disparu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui on combat tout ça, on fume pas là sur le plateau,
on boit pas un
comme
whisky,
chez Pollack. Mais il y a une forme aussi de peut-être de. C'est une époque, c'est l'époque.
Oui, moi je trouve que c'est surtout un plaidoyer pro domo. Il essaye de.
En fait, il parle de lui.
Franchement, je ne sais pas moderne.
Faire jouer, vous dites, il parle de lui, c'est ça pour conclure.
Voilà, c'est un banquier d'affaires littéraire. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Ça doit être ça qui l'inspire le plus. Mais Emmanuel Macron adore, dès qu'il rend hommage aux uns ou aux autres, c'est récurrent. Il l'a fait même l'autre jour quand il a décoré les joueurs de foot de l'équipe championne du monde. Il adore parler de lui à chaque fois qu'il est sur le papier ou facialement en train de parler de quelqu'un d'autre.
Allez, tout dernier mot là-dessus, Roselyne Fèvre.
Oui, il a cité Pompidou en disant « Je suis en marge du bonheur, c'est un fait auquel je ne peux rien ». Il a dit « Je ne parlerai pas de mon bonheur
de
à moi ».
Les chemins de longue durée sont touchés.
Parce que c'est pas dans la déontologie d'un président de la République, ça rappelle la phrase de Titus Abirenis, mais il ne s'agit plus de vivre, mais de régner, donc en gros, on ne pense pas à son bonheur.
Voilà, et puisqu'on est dans la citation, Emmanuel Macron a dit aussi de Georges Pompidou, il avait une tête de Français, il incarnait la France. 20h et 40 minutes sur France Info, rappel de l'info, on va revenir au réel avec Jules de Kiss.
On connaîtra le 18 octobre le jugement du procès Balkany pour blanchiment et fraude fiscale. Les portes du tribunal correctionnel de Paris se sont refermées ce soir après les plaidoiries de la défense. Maître Éric Dupond-Moretti, avocat du maire de Levallois-Perret, estime que le réquisitoire est monstrueux. 7 ans de prison ferme demandé contre son client. Il déplore la posture moraliste des procureurs et l'exigence de transparence du monde moderne. Bruno Retailleau annonce qu'il n'est pas candidat à la présidence du Parti Les Républicains. Le porte-parole du groupe au Sénat dit vouloir préserver l'unité du groupe parlementaire et éviter une nouvelle guerre des chefs. Voilà qui ouvre donc la voie à Christian Jacob, son homologue à l'Assemblée nationale. En 15 ans, boire de l'alcool avant de prendre le volant et rouler très vite semble être devenu ringard, en plus d'être très dangereux. 6% des Français reconnaissent aujourd'hui boire plus de 4 verres avant de conduire. C'est 3 fois moins qu'en 2004. Même réduction pour la vitesse. Un conducteur sur 10 admet encore rouler parfois au-dessus de 160-170 km/h sur autoroute. Pour les Nations Unies, l'Arabie Saoudite est responsable de l'exécution extrajudiciaire de Jamal Khashoggi. Ce journaliste et critique du pouvoir saoudien, est mort brutalement en octobre à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul. Le rapport sur cette affaire accable notamment le prince héritier du pays, Mohamed Ben Salman. Et puis Mathieu Bastareau annonce sa retraite internationale. Le trois-quarts centre toulonnais vient d'apprendre qu'il n'est pas retenu pour disputer la prochaine Coupe du monde de rugby au Japon en novembre prochain. Il aura porté 54 fois le maillot des Bleus.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Tenez, Thomas Clé, vous qui avez été passionné par le sujet précédent sur Georges Pompidou, Jules de Kiss vient d'évoquer...
Faut pas faire de critiques ici.
Non mais au contraire, je vous pique un petit peu au vif, j'ai le droit. Jules de Kiss évoquait à l'instant le refus de Bruno Retailleau de briguer la présidence des Républicains. Votre commentaire là-dessus?
Je suis très triste. Écoutez, personne ne veut être président de rien. Aucun parti traditionnel n'a réussi à trouver les têtes de liste pour les européennes. Il a fallu aller chercher soit des inconnus, soit des seconds couteaux. Les partis traditionnels n'y arrivent plus. Alors là, on va avoir, si je comprends bien, c'est Christian Jacob. En termes de modernité, lui qui est président du groupe à l'Assemblée nationale depuis 2010, je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais je ne les sens pas triomphants.
Audrey Goutard, les LR, c'est le lointain descendant de l'UDR, hein, de Georges Pompidou, pardon de faire le lien. De Georges Pompidou. Que dites-vous aujourd'hui, ces recherches président désespérément?
Surtout à partir du moment où vous établissez de nouvelles règles du jeu, où le futur président ne pourra pas se présenter à la présidentielle. Donc c'est compliqué de trouver des candidats qui vont dire « Bon, écoutez, je prends un parti qui est en complète déshérence, ok, je me bats contre tout le monde et en plus je ne me présente pas ».
Pardon de refaire le lien, Roselyne Fabia, ce discours ce soir sur Georges Pompidou, il y a cet état déliquescent des Républicains, ceci explique cela, non ?
Le président essaie
de s'emparer de ce qu'il reste de LR.
Il en reste 8%. Hein. Ouais. Mais moi, je crois que la droite prend les choses à l'envers. À l'envers, parce que bon, c'est vrai que ce match, on n'allait pas faire le match des deux chambres, c'est-à-dire du président du groupe à l'Assemblée nationale, du président du groupe au Sénat, ça faisait mauvais genre. Mais ils prennent les choses à l'envers parce que c'est dans le fond les idées, c'est leur stratégie qu'il faut qu'ils les remettent au point. De savoir si c'est Pierre-Paul Jacques, Mister Jacob ou Mister Retailleau. Franchement, certains diraient on s'en bat les genoux avec du myosotis pour reprendre l'époque Pompidou. Oui. Non mais vous voyez, donc c'est vrai que choisir Christian Jacob, bon pourquoi pas, c'est vrai qu'il embêtera personne si entre-temps, comme dans les tragédies grecques, il sort une sorte de Deus ex machina à droite qui sera capable d'affronter Emmanuel Macron en 2022.
Alors Emmanuel Macron, en rendant hommage à l'ancien président Pompidou, s'adresse évidemment aux électeurs de droite, je vous tends la perche mais je vais le faire tout seul, comme son épouse d'ailleurs, Brigitte Macron, qui désormais succède à Bernadette Chirac à la tête de l'opération Pièce Jaune. Ça fleure bon la campagne des municipales, sur fond d'accords possibles entre marcheurs et républicains. Sur France Bleu Provence ce matin, eh bien, le maire sortant de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a apporté son soutien à la présidente de la métropole marseillaise, Martine Vassal, qui veut, elle, ce rassemblement entre LR et la REM. On écoute Jean-Claude Gaudin.
C'est le début, effectivement, de quelques dialogues qui pourront ici ou là exister pour un rassemblement. Les marcheurs se croient très forts par les élections présidentielles, par les élections législatives ou européennes. Mais chaque élection est différente. Tout peut changer et les élus marcheurs devraient, au contraire, dans ce que souhaite d'ailleurs le président de la République et le Premier ministre, rassembler la ville de Marseille, deuxième ville de France. Aucun parti, tout seul, ne peut gagner les élections. Par conséquent, il faut un rassemblement et les marcheurs apprendront à le faire.
Jean-Sébastien Ferjou, c'est la formule magique désormais des mairies LR qui deviennent LREM, avec une sorte de d'accord, ville par ville.
Je crois que ça dépend profondément de la sociologie des villes en question. On est dans une espèce de nouvelle lutte des classes, en quelque sorte, où le niveau de diplôme et de revenu des gens pèse très lourd dans les choix de vote. Donc les maires des grandes villes qui, bien souvent, c'est peut-être un peu moins le cas de Marseille, mais dans beaucoup de grandes villes de l'Ouest, ou Lyon, ou même Lille, qui sont des villes qui vont plutôt bien, effectivement, il y a un enjeu sociologique. Et la droite a un peu perdu la capacité à tenir un discours qui puisse à nouveau s'adresser à cette catégorie d'électeurs-là. Maintenant, ce qu'on évoquait juste avant le départ de Bruno Retailleau, ça montre précisément que les Républicains n'arrivent plus à vivre ensemble. Ils n'arrivent plus à faire... C'est-à-dire que le bilan de l'UMP, c'est quand même que la droite a été dissoute. Ceux qui ont voulu l'UMP, et qui étaient-ils ceux qui ont voulu l'UMP, c'était quand même profondément des gens qui étaient plutôt les héritiers de l'ancienne UDF ou d'une pensée UDF. Finalement, ils ont eu la peau du RPR, ils ont sorti tous les gens du RPR ou ont gardé ceux qui, comme Alain Juppé, étaient plus proches du cercle de la raison. Oui. Et ils sont arrivés à tout éliminer. Mais le constat que fait Bruno Retailleau est finalement le même que celui que fait Valérie Pécresse. Ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Là où auparavant, que ce soit Georges Pompidou, qui était quand même très conservateur, il était peut-être moderne, mais enfin, il était quand même très conservateur.
Absolument.
Il faut le rappeler. Et bien, cette espèce d'alliance entre des libéraux et des conservateurs, elle n'arrive plus à exister aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus capables de se parler, alors que leur électorat, lui, il est toujours là.
Audrey Goutard, pour poursuivre ce qu'évoque Jean-Sébastien Ferjou, il faut rappeler quand même que cette déclaration de Jean-Claude Gaudin ce matin chez nos confrères de France Bleu à Aix-en-Provence survient après la visite de Brigitte Macron à Marseille. Est-ce que nous sommes face à des grandes manœuvres aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme de première fusion qui apparaît ville par ville?
De toute façon, comme dit Jean-Sébastien, à partir du moment où vous avez LR qui se morcelle de cette façon-là, les alliances sont obligatoires et d'un autre côté, La République En Marche a besoin de son côté de se structurer et d'exister localement, ce qui n'est pas le cas pour le moment à part dans les très grandes villes. Donc oui, il y a des opérations séduction, oui, il y a des alliances possibles et d'opportunités du fait notamment du morcellement de LR.
Thomas Clé, qui va revendiquer ensuite telle ou telle victoire entre ces deux formations si elles passent des accords et que chacun garde son étiquette?
Je crois que ça va être très intuitu personné. Ça va dépendre de chaque circonstance locale. Les élections municipales sont des élections locales. Ce seront d'ailleurs les premières élections locales depuis que Emmanuel Macron a été élu. En Marche et dans une problématique très simple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passé. C'est d'ailleurs, ça nous ramène à ce qu'on vient de dire avant. Le président de la République essaye de s'inscrire dans le passé, mais En Marche n'a pas de passé. Il a gagné successivement les présidentielles, les législatives et les européennes, si on veut bien considérer que c'est le seul parti qui a augmenté par rapport au scrutin européen précédent. Donc, ils ont besoin maintenant d'avoir un ancrage local, c'est l'étape d'après, et ils vont braconner, très clairement, sur les terres de la gauche ou de la droite, puisque c'est pas contre nature dès lors qu'ils s'estiment eux-mêmes au centre du jeu. Donc, on va voir, et ce qui va être intéressant, mais j'imagine qu'on va en parler, Jean-François Aquili, c'est ce qui va se passer à Paris.
Oui, on en parle dans un instant. Jean-Sébastien Ferjou, encore un mot là-dessus.
Sachant qu'on a publié un sondage sur Atlantico qu'on a réalisé avec l'IFOP et qui montre que les sympathisants de La République En Marche, eux, ne cessent de s'auto-définir comme de plus en plus à droite. Sur une échelle de 0 à 10, ils étaient à 5,2 au début du quinquennat, ils sont maintenant à 6,3. Et donc c'est un enjeu à prendre en compte pour La République En Marche, parce qu'on peut le voir de différentes manières. Effectivement, ils ont intérêt à aller taper dans l'électorat à droite, mais si vous avez des candidats de droite, regardez à Reims, un Arnaud Robinet, par exemple, qui a préféré soutenir François-Xavier Bellamy et qui maintenant se voit punir par La République En Marche, ça sera quand même un enjeu pour La République En Marche de mettre un candidat face à un candidat de droite à côté qui lui-même ne sera pas nécessairement sur le clivage souverainiste progressiste. Parce qu'ils vont devoir composer eux-mêmes avec cet électorat qui change. Et ça n'a rien d'évident dans des élections en plus à deux tours, parce qu'il y aura toutes les alliances de soir de premier tour.
Roselyne Fèvre.
Moi, je voulais juste m'arrêter sur Marseille. Plus prosaïquement, la réalité, c'est que à Marseille, on a peur que ce soit le Rassemblement National qui prenne la ville, tout simplement. Regardez les élections européennes. Le RN est arrivé à 26% devant La République En Marche. Donc c'est ça le sujet, c'est qu'il y a la crainte que cette ville tombe dans l'escarcelle du Rassemblement National. Donc la droite ne peut plus gagner seule. Et à Marseille, c'est une droite bon teint et je ne suis pas sûre qu'elle soit très choquée si elle devait voter pour une alliance avec des gens de La République En Marche.
Allez, 20h50 sur France Info. Le rappel de l'info, Jules de Kiss.
Nicolas Sarkozy sera jugé ces prochains mois pour corruption et trafic d'influence. La justice valide définitivement son renvoi devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. Des échanges captés entre lui et son avocat révéleraient une tentative de corruption sur un haut magistrat du temps où il était à l'Élysée. La promesse d'un poste prestigieux en échange d'informations sur l'enquête Bettencourt. Le parquet de Marseille demande le renvoi devant la justice de Jean-Noël Guérini. Le sénateur, ancien président PS du département des Bouches-du-Rhône, est suspecté de prise illégale d'intérêt. Il aurait aidé son frère Alexandre à acquérir un terrain pour exploiter une décharge. Le procureur de Marseille a en revanche abandonné les poursuites dans plusieurs volets de cette affaire tentaculaire. Boris Johnson accroît encore son avance pour succéder à la première ministre britannique Theresa May. Il reste en tête avec de plus en plus de soutien après le troisième tour du scrutin qui doit désigner le chef du Parti conservateur. S'il est désigné après un vote des députés puis des adhérents, il aura la charge de finaliser le Brexit et il n'exclut pas une sortie sans accord. La population française est celle qui émet le plus de doutes sur les vaccins d'après une étude mondiale publiée aujourd'hui. Un Français sur trois pense qu'ils ne sont pas sûrs. Plus globalement, c'est dans les pays riches que l'on trouve le plus de sceptiques sur la vaccination. Au Bangladesh ou au Rwanda, par exemple, la quasi-totalité des habitants dit avoir confiance dans les vaccins. Et puis après le Paris Saint-Germain, c'est à l'Olympique de Marseille de rendre des comptes à l'UEFA sur le fair play financier. Le club de football phocéen signe un accord et s'engage à équilibrer ses comptes jusqu'en 2023. Il va donc devoir se serrer la ceinture puisque pour l'instant, ils sont largement déficitaires.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis il y a Paris, comme l'a suggéré si aimablement Thomas Clé. Marlène Schiappa va-t-elle se présenter aux côtés de Benjamin Griveaux? La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a évoqué l'hypothèse ce matin. C'était avec Jean-Pierre Elkabbach sur CNews.
Je discute avec Benjamin Griveaux, que je soutiens très fortement à Paris. Vous savez, je suis parisienne, je suis née à Paris, j'ai passé 32 ans à Paris, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'y vis actuellement. Et donc si je me présente aux élections municipales, ce serait plutôt à Paris, en tout cas dans l'équipe de Benjamin Griveaux.
Si c'est lui qui est choisi, Benjamin Griveaux, vous seriez dans quel quartier, quel arrondissement?
Moi j'habite à Montparnasse, donc il est plutôt logique que je me présente là où j'habite et là où j'étais au collège et où j'ai grandi au demeurant.
Thomas Clé, entre les lignes, est-ce que cela valide l'hypothèse de Benjamin Griveaux, candidat officiel de la République en Marche à Paris?
Je vais vous répondre, mais d'abord sur Marlène Schiappa, parce que là on parle de la candidature de Marlène Schiappa. C'est intéressant, moi je croyais qu'elle habitait au Mans. D'ailleurs, on nous a raconté qu'elle avait été agressée au Mans il y a quelques temps. Donc moi, je trouve qu'on en a un peu assez de ce nomanisme politique, ça vaut pour Marlène Schiappa comme pour d'autres, et je crois qu'on l'annonce dans le 14e arrondissement. Moi, je suis un pur produit du 14e arrondissement, j'y vis. J'espère que c'est également son cas, parce que pour l'instant, elle nous dit Montparnasse, mais Montparnasse, c'est sur plusieurs arrondissements.
C'est compliqué de mentir quand même.
Elle n'a pas menti, elle a dit Montparnasse. Et vous savez qu'il y a une partie dans le 6e arrondissement. Et la place notamment du 18 juin 1940, dont on fête évidemment l'anniversaire plus un jour. Donc voilà, ce nomadisme politique est un peu fatigant. Soit elle vit au Mans, soit elle vit à Paris. Si elle vit à Paris et qu'elle se présente dans le 14e arrondissement, c'est très bien. Maintenant, qu'elle prenne position dans cette primaire interne à La République En Marche, pourquoi pas. Mais... voilà, ça va être une bagarre très intéressante.
Audrey Goutard, ça vous chagrine?
Être une parachutée du 6e au 14e ou du 14e au 6e ou du Mans qui est à 50 minutes de Paris. Enfin bon, je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin,
Parisiens, beaucoup en tout cas,
il n'y a pas un Parisien qui soit Parisien de souche depuis le 14e siècle.
Donc, c'est quand on dit j'habite au Mans, puis on suit dans
les on explique, on raconte une histoire. C'est ça la politique, c'est qu'on se raconte. Non, c'est pas dans le sens, je ne disais pas ça dans le sens de mensonge. Je dis, on raconte une histoire qui effectivement incarne ce qu'on veut faire. Voilà, c'est le boulot d'un politique. Enfin, je veux pas défendre Marlène Schiappa, mais faut pas tomber non plus dans la critique systématique de chaque fois qu'un politique évoque, mais elle a mis un peu son cœur sur la table.
Les records de changement de circonscription qu'on a pu connaître avec Jack Lang, par exemple.
Mais c'est pas mieux, c'est pas plus admissible.
Non, mais là, c'est pas très choquant.
Moi, ce que je note, c'est qu'il y a beaucoup de ministres qui se tâtent pour savoir si.
Est-ce qu'ils doivent sortir du gouvernement, si tel est le cas?
Mairie d'arrondissement, c'est un exécutif local, peut-être pas le plus prestigieux, mais c'est un exécutif local. On peut pas cumuler.
Non, mais un ministre, qu'il faut savoir, c'est qu'il vit toujours dans la terreur d'être manier ou d'être viré. Donc, dans le fond, ils savent que l'expérience d'élu, alors c'est peut-être une idée du vieux monde qui revient, mais être élu, c'est être ancré et c'est durer aussi, durer dans la politique, parce que pour beaucoup, et Marlène Schiappa en fait partie, elle était blogueuse à la base, certes talentueuse, mais la politique, elle vient de la société civile.
On ne peut pas être ministre et...
La politique, c'est le suffrage, quoi, c'est ça. Et je pense qu'ils sont en train de le comprendre.
Pardon ? On ne peut pas être ministre et maire d'arrondissement de Paris, selon vous, ce n'est pas compatible?
C'est compliqué, on s'occupe de sa mairie, on s'occupe de son arrondissement, on est ministre.
Son ministère, peut-être, surtout.
C'est pas ça faire jouer, son ministère.
Non, je pense qu'on peut pas faire les deux.
Encore un mot, Thomas Clé, vu les scores électoraux européennes de La République En Marche à Paris, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un boulevard pour Benjamin Griveaux?
Je sais pas si c'est un boulevard pour Benjamin Griveaux, sur le papier, oui. En même temps, il est très contesté en interne. Ce qui est intéressant, c'est la fragilité de la maire sortante. À Paris, le Parti Socialiste a fait 8%. Alors, ce ne sont pas les mêmes élections, mais il y a quand même une tendance. Et ces alliés traditionnels que sont les Verts sont largement devant à Paris. Ils ont remporté, si on prend les circonscriptions...
Mais ce sont ses alliés.
Comment ?
Mais ce sont ses alliés, donc c'est un atout.
Oui, mais, oui. Oui, mais qui est l'allié de qui ? Qui va être devant ? La maire sortante est très, très fragilisée, alors qu'effectivement, sur le papier, La République En Marche est beaucoup plus forte. Simplement, elle est contestée en interne.
Jean-Sébastien Ferjou ?
Oui, elle est certainement fragilisée, mais en même temps, le système parisien, c'est un système par arrondissement. Donc,
oui,
ce qui compte, c'est d'être le centre de gravité de qui peut être élu dans quels arrondissements. Il y a des arrondissements dont on sait très bien que, de toute façon, ils sont acquis à la gauche, d'autres qui peuvent être toujours, malgré tout, acquis à la droite. Certains, probablement, conquis soit par les Verts, soit par La République En Marche. Et l'intérêt pour Anne Hidalgo, c'est qu'elle peut être le plus petit dénominateur commun, justement, de cette alliance-là, ce qui n'est pas aussi évident que ça en a l'air quand on regarde la carte parisienne au sens large pour La République En Marche, et encore moins pour Benjamin Griveaux, je
pense. En tous les cas, c'est promis, nous allons géolocaliser Montparnasse après cette émission pour en savoir plus avec vous. Il est temps de conclure. Audrey Goutard, l'instant T sur France Info.
Eh bien, je reçois... excusez-moi, j'ai un trou de mémoire sur le
nom
de
mon invité. Elle m'a invité dans son émission.
Jean-Sébastien Ferjou, sur la home, si je puis dire, d'Atlantico.
Mais on revient sur la dette. Vous savez, les taux d'intérêt sur la dette française sont négatifs. Et il faut absolument le lire pour comprendre. Ça paraît contre-intuitif, mais en fait, les taux d'intérêt réels sont encore trop hauts.
Allez, Audrey, l'instant
T. Alors, je m'excuse auprès d'Olivier Delacroix, que j'invite à l'instant T, car il a écrit un livre sur les femmes et son parcours.
Et merci à vous, Roselyne Fèvre et Thomas Clé. Pour ma part, je vous dis eh bien, à demain pour une prochaine édition désinformée de France Info. Bonne soirée.